Merci, Maître. Parle-nous. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir. Comme je l'ai souligné dans mon adresse au début du culte, depuis le mois de mai, nous sommes dans la pensée de l'Esprit, nous sommes dans la pensée de la Pentecôte. Et je voudrais aujourd'hui, eh bien, poursuivre dans la même lancée, essayer de voir ensemble combien, mes amis, le Saint-Esprit est indispensable, est important dans notre vie, combien nous devrions tout faire pour qu'il puisse être à l'aise dans chacun de nous, pour qu'il puisse nous conduire, car ce n'est que lorsqu'il nous conduit, ce n'est que lorsque nous menons une vie qui est inspirée par lui, qu'alors nous expérimenterons des grandes choses. Alléluia. Ils étaient si peu, mes amis, au début. Lisez les Saintes Écritures. Ils étaient si peu. Parmi eux, il n'y avait pas beaucoup d'érudits. Parmi eux, il n'y avait pas beaucoup de nobles. Parmi eux, il n'y avait pas de gens de haute culture intellectuelle ou autre. Mais cependant, ils ont bouleversé le monde de leur époque. Comment expliquer qu'aujourd'hui, eh bien, l'Église patauge de plus en plus dans une sorte d'impotence. L'Église est de plus en plus avachie, sans aucune énergie qui lui permette de conquérir les territoires, de plus en plus occupés et manipulés par les puissants des ténèbres. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais parler de la nécessité d'être transformé afin de triompher. Amen. Être transformé afin de triompher. Il n'y a pas d'autre secret, mes amis. Le secret est en nous. Tout est en nous. Car dans la plupart des cas, nous nous projetons sur ce qu'il y a devant nous, c'est ce qu'il y a autour de nous. Nous essayons de voir les différents adversaires, les ennemis, etc. Et nous oublions que nous devrions d'abord et avant tout nous préoccuper de ce qui est en nous. Car ce qui est en nous va déterminer notre manière d'appréhender le combat. Alléluia. Ce qui est en nous va nous permettre, mes amis, de pouvoir alors être forts face à nos adversités, face à toutes sortes de choses de nature à nous empêcher, à nous décourager et à nous arrêter dans notre marche vers la gloire. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens 3. À partir du verset 11, très rapidement. En effet, si ce qui passe a eu sa gloire, a bien plus forte raison ce qui demeure est glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est pas enlevé parce qu'il n'est disparu Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous allons de triomphe en triomphe. Alléluia. Donc, ce qui va se passer en aval dépendra, mes amis, de ce qu'il y a, de ce qui se passe en amont. Et en amont, c'est bien la transformation, la métamorphose qui ne peut être rendue possible que par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul. Quand on replace ces déclarations dans un contexte beaucoup plus large des Saintes Écritures, et en particulier à la lumière de l'enseignement du Seigneur relatif au Saint-Esprit, on peut alors comprendre pourquoi il a dit « Je ne veux pas vous laisser seul ». Pourquoi il a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien ». Pourquoi il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, que je quitte cette terre, que je retourne auprès du Père, car alors seulement viendra le Saint-Esprit. Alléluia. Être transformé afin de triompher. Quand il est question de victoire, évidemment en aval, quand il est question de triomphe, cela suppose qu'en amont, il y a un contexte de guerre, oui ou non? Oui ou non? Cela suppose qu'il y a un contexte de conflit, de bataille, de combat. Voyez-vous? Et dans cette guerre, comme dans n'importe quel combat, dans n'importe quelle guerre, il n'y a que deux possibilités. Soit on remporte le combat, on gagne la bataille, on a la victoire, soit on est vaincu. Oui ou non? Donc, il n'y a que deux possibilités. Gagner ou perdre. Expérimenter la victoire, le triomphe, ou alors subir la défaite et aller de défaite en défaite. Mais ce qui est extraordinaire pour nous, peuple de Dieu, mes amis, bien que nous ayons le même corps que le reste, que le commun des mortels, ce qui est formidable avec nous, c'est que celui qui est en nous et celui qui a combattu et qui a vaincu et qui a triomphé de tous nos adversaires, à commencer par Satan et tous ses démons. Il a brisé la puissance de l'enfer, lui Jésus de Nazareth. Alléluia. Il a dépouillé toutes les principautés, il a écrasé toutes les autorités des ténèbres. Il a brisé, il a anéanti, il a marché sur le pouvoir de Satan, sur le pouvoir des esprits impurs. Il a brisé le pouvoir du péché, il a vaincu la mort. Et non seulement il a accompli tout cela, mes amis, lors de sa venue sur cette terre, la Bible nous dit que c'est Jésus qui est ressuscité, qui est assis dans la gloire, eh bien, nous donne, dispose pour nous ces mêmes triomphes, cette même victoire. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Gloire au Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs, quelle que soit notre position dans le corps du Christ, que nous soyons dans un ministère attitré, ou que nous soyons simplement un frère ou sœur, eh bien, dès lors que nous appartenons au corps du Christ, nous sommes condamnés à la victoire et au triomphe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cependant, ceci n'est pas toujours le cas pour beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire, bien que la Bible déclare qu'en Christ nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, bien que la Bible déclare que le Seigneur est là et avec lui nous pouvons tout, eh bien, si nous regardons à chacune de notre vie, nous nous rendrons tout de suite compte que dans la plupart des cas, nous avons des difficultés énormes à expérimenter cette victoire du Christ au quotidien. Nous avons de la peine, mes amis, à résister à la tentation. Combien tombent si facilement dans le péché, et même dans des péchés abominables et à peine nommables? Combien restent encore debout lorsqu'une petite tempête souffle, une petite bourrasque se lève? Combien tiennent encore debout? Dans la plupart des cas, aussitôt que la bourrasque se met à souffler, aussitôt que la tempête se lève, eh bien, nous voilà par terre. Comment expliquer cela? Jésus aurait-il changé? Comment expliquer cette impotence, ce manque d'expérimentation des miracles dans la vie de beaucoup d'entre nous, dans la vie de beaucoup, beaucoup d'églises? Voyez? Comment expliquer cette incapacité à faire face à nos adversaires, à nos ennemis de tous bords? Cette incapacité à faire face à toutes sortes de circonstances adverses. Nous sommes de plus en plus, mes amis, environnés par des gens qui nous sont hostiles. L'Église évolue dans un contexte très difficile, surtout dans ce temps qui nous rapproche de la venue du Seigneur. Nous avons de plus en plus des problèmes à faire face aux épreuves. Et ce, contrairement aux héros de la foi, dont il est question dans le Nouveau Testament et notamment dans l'Épître aux Hébreux. Lorsque nous lisons, mes amis, la vie de ces gens, eh bien, nous avons l'impression que leur vie est aux antipodes de la nôtre. Nous avons l'impression que c'est peut-être pas le même Dieu. Et pourtant, celui qui a agi avec les patriarches, celui qui a agi par et au travers des prophètes d'Israël, celui qui a agi, mes amis, avec les apôtres, plus tard avec les premiers disciples de Jésus, est encore le même aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est le même que nous servons. Même si, bon, les temps ont changé. Aujourd'hui, nous avons des micros, nous avons des baffles. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des grands auditoriums comme celui-ci, alors qu'à l'époque, c'était des églises, des maisons, etc. Mais il reste le même. Le monde est en évolution. Le monde change. Mais lui reste immuable. Alléluia. Sa puissance est restée la même. Avant la création, pendant la création et après la création. Ce qu'il a fait avec Abraham, ce qu'il a fait avec Isaac, avec Jacob, ce qu'il a fait avec David, avec les différents prophètes dont il est question dans l'Ancien Testament, ce qu'il a fait avec les apôtres, mes amis, ce qu'il a fait avec les premiers disciples du Nouveau Testament, il peut le faire encore aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'agisse pas puisqu'il reste le même. La Bible est formelle. Jésus est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé, alléluia. Mais pour beaucoup, cette déclaration de la parole de Dieu est simplement une déclaration parmi tant d'autres qui ne trouve pas, mes amis, un écho positif dans nos cœurs. Beaucoup ont cette déclaration, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais sans qu'ils vivent réellement, mes amis, la puissance de ce Jésus-là. Avec Dieu, sachons-le, il n'y a pas de favoritisme. Voyez ? Il n'y a pas de raison de croire que Dieu aurait été plus avec ceux de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament, qu'il serait moins avec nous. Pas du tout. Dieu reste le même. Alléluia. Il reste immuable. Il ne change pas. Il est juste. Et par conséquent, il ne peut pas faire preuve de favoritisme. Il reste le même, tout puissant, omnipotent, et par conséquent, il peut tout, absolument tout. Amen. Oui, c'est facile à dire, Dieu peut tout, mais dans la pratique, est-ce que nous vivons cela? Ou alors c'est simplement des déclarations verbales, ou alors c'est simplement des déclarations qui font partie de notre verbiage, de notre dialecte de Canaan, sans que cela puisse susciter en nous une attitude de foi. Son amour est le même. Il a aimé les patriarches, il a aimé les apôtres et les premiers disciples. Il nous aime de la même manière. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Ceux de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament et ceux d'aujourd'hui, du même amour. Gloire au Seigneur. Puisque il nous aime du même amour, puisque il est immuable, il ne change point, puisqu'il reste juste, puisqu'il ne fait pas de favoritisme, alors, mes amis, il est prêt aujourd'hui, il est désireux de faire dans chacun de nous aujourd'hui, de faire dans notre Église, de faire dans l'Église aujourd'hui ce qu'il a fait si merveilleusement, si majestueusement, si surnaturellement dans la vie des premiers disciples et dans la vie de l'Église néo-testamentaire. Alléluia. En lisant le livre des Actes, on peut se rendre compte que ce Dieu-là, eh bien, a agi puissamment avec une poignée d'individus, eh bien, il a marqué l'histoire de cette époque. Le mouvement de Jésus a commencé avec une poignée d'individus et a commencé à se répandre, non pas avec les armes, pas du tout, mes amis. C'est le seul qui n'a pas versé le sang de ses adversaires pour pouvoir être célèbre, mais plutôt son propre sang. Alléluia. Le seul mouvement, et même lorsque Pierre a voulu le défendre, « Lorsqu'il est intervenu en sa faveur, là, à Gethsémané, alors que les gens sont venus pour l'arrêter, au nom de la légitime défense, le Seigneur n'a pas dit, bon, Pierre, ça va. Non, pas du tout. Il a repris sévèrement. Il lui a demandé de remettre son épée dans le fourreau. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a pris l'oreille qui avait été arrachée par l'épée de Pierre pour la remettre à la place. Voyez-vous ? Et pourtant, sans armes, sans une structure comme nous en avons aujourd'hui, ces gens sont partis de conquête en conquête, alléluia, pillant l'enfer et enrichissant le ciel. Ils sont partis, mes amis, en conquérant. Rien ne les a arrêtés, rien ne les a découragés. Même lorsque certains étaient donc tués, étaient livrés en pâture aux bêtes sauvages, eh bien, rien ne les a arrêtés. Au contraire, ils ont continué à aller de l'avant. Eh bien, ce Dieu-là est encore le même aujourd'hui. Nous n'avons pas de raison de croire que les démons d'aujourd'hui seraient beaucoup plus méchants que ceux de l'époque du Seigneur ou des apôtres. Il n'y a pas de raison de croire qu'il y aurait maintenant plus de démons qu'il y en avait à l'époque du Nouveau Testament. Non, les démons ne se reproduisent pas. Ils ne font pas d'enfants. Heureusement d'ailleurs, parce que s'ils avaient cette capacité, oh là là, ils seraient tous polygames pour faire beaucoup d'enfants et en faire des kamikazes pour détruire la race humaine. Donc, nous voyons, mes amis, que Dieu est resté le même. Alors, puisqu'il est le même, il a été avec ceux de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament, il agit un peu partout dans le monde. Puisqu'il ne change point, c'est qu'alors, il y a un problème, et ce problème-là, ce n'est pas lui. Le problème doit être de notre côté. Quel est alors ce problème? Quel est alors cet obstacle majeur qui nous empêche de vivre pleinement la victoire du Christ? D'aller, de mener une vie de triomphe en triomphe, quels que soient les obstacles, les montagnes des problèmes qu'il y a devant nous, eh bien, cet obstacle-là n'est pas en dehors pour que nous puissions le combattre comme nous combattons les démons. Au nom de Jésus, je te chasse. Cet obstacle-là est parmi nous, puisqu'il est contagieux. Cet obstacle-là est en nous. Et malheureusement, nous passons trop peu de temps pour nous asseoir devant le Seigneur et le laisser, lui, nous aider à faire une sorte d'introspection, voir où nous en sommes par rapport à lui. Voyez ? Nous considérons plus, eh bien, les ennemis de dehors. Vous voyez ? Les esprits mauvais, au travail, des gens méchants, etc. Nous sommes plus tournés vers les circonstances adverses qui nous environnent, voyez, plus tournés vers vers des problèmes qui sont là devant nous, toutes sortes de montagnes, toutes sortes de forteresses, que nous avons fini par oublier cet adversaire qui devrait d'abord et avant tout faire l'objet de notre guerre. Quel est cet adversaire? Quel est ce dragon, cette forteresse qu'il faut absolument battre? Eh bien, c'est l'incrédulité, l'absence de foi, le manque de foi ou la petite foi. Je reviendrai là-dessus pour examiner, pour passer en revue les différents termes que le grec utilise pour exprimer, mes amis, ce que nous avons traduit dans nos versions françaises par le terme incrédulité. Le grec a plusieurs mots, et chaque mot, eh bien, a un sens particulier qu'il est difficile de trouver dans le mot incrédulité. Voyez ? le manque de foi, la non-foi, l'absence de foi, le manque de foi, mes amis, est le premier obstacle contre lequel nous devrions nous battre. Cet obstacle est en nous. Voyez-vous? Tant que, eh bien, cette incrédulité s'érige en forteresse en nous, nous aurons de la peine à combattre dehors, quand bien même nous aurons le nom de Jésus dans la bouche. Car le nom de Jésus n'est pas un nom magique qu'on pourrait mettre à toutes les sauces. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, tout le monde y va. Hein? Il va de son interprétation. Quelqu'un passe par des moments difficiles, c'est un homme qui mène une vie immorale, c'est une femme avec une vie scabreuse. Il faut invoquer le nom de Jésus. Hein? Ah, il faut jeûner. C'est comme si, ben là, il suffirait simplement de prendre le nom de Jésus, et ça y est. Vous voyez, comme si, vous savez, quand vous êtes atteint de la malaria, ben vous prenez la quinine ou je ne sais, un autre succédané, eh bien, au bout de quelque temps, vous êtes guéri, oui ou non? Eh bien, dans ce domaine-là, et avec le nom de Jésus, ça ne se passe pas comme ça. L'incrédulité. Voyez? Le premier sens de l'incrédulité, qui est l'obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit. Voyez? Car tant que cette incrédulité est dans nos cœurs, croyez-moi, mes amis, nous pourrions connaître toute la théologie et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et ne pas expérimenter la puissance de Dieu. Nous avons dans cette ville de Kinshasa beaucoup d'églises. Nous avons à travers le monde beaucoup d'hommes et de femmes qui ont fait des études de théologie, des études bibliques, etc. Mais qui cependant, tout en ayant une grosse tête, une tête à plusieurs étages, remplie du savoir théologique, du savoir biblique, ces gens-là, mes amis, n'expérimentent pas la puissance et le triomphe de Jésus-Christ. Donc ça nous montre que nous pouvons lire la Bible et être incrédules. Ça veut dire que nous pouvons prier tout en étant incrédules. Ça veut dire que nous pouvons jeûner tout en étant incrédules. Dans ce cas, tout ça, et le jeûne, et la prière, et le chant, et la musique, et tout cela, pourrait être simplement une manifestation de notre religiosité. Voyez? Comme nous aimons beaucoup la musique, hein, nous autres ici, on prend la même musique, on enlève le nom, je ne sais de qui, on met simplement Jésus, c'est fini. Voyez? Ce n'est pas ça qui change. La non-foi. Il y a un terme grec, apistia. Le A là, c'est le A privatif qu'on trouve dans des termes comme athéisme. Vous avez le théisme, la croyance en un Dieu personnel, voyez-vous. Et puis, vous avez l'opposé, vous avez son contraire, l'athéisme. C'est le A privatif. Eh bien, nous le retrouvons dans ces termes-là, apistia, qui veut dire la non-foi. C'est fort, hein. Et il y a des gens, tout en ayant le nom de Jésus dans la bouche, ils n'ont cependant pas la foi. Et le Nouveau Testament utilise ces termes pour stigmatiser l'absence de foi. Et même, c'est ce qui est grave, une foi insuffisante. Alléluia. Une foi insuffisante. Donc vous voyez, mes amis, nous n'avons pas de choix que de grandir dans ce domaine. Ou alors, très rapidement, bon, je vais mentionner juste deux termes, je reviendrai là-dessus. Oligopistien, vous savez, oligos veut dire petit, oligarchie, vous connaissez pour ceux qui ont fait les Sciences Po. Eh bien, ça veut dire la petite foi, ou alors le peu de foi. Voyez, l'absence de foi, le peu de foi, eh bien, mes amis, sont de véritables obstacles. Et ceci est un péché dévastateur. Car ce péché de l'incrédulité, de l'absence de foi, de la petite foi, nous égorge, nous aveugle. Et beaucoup sont aveuglés, mes amis. Ils courent dans tous les sens. Ils vont suivre des enseignements partout, parce qu'on parle de Jésus. Mais ces enseignements qui ne sont pas inspirés par le Seigneur, ces enseignements qui sont là simplement pour manipuler les gens ne pourront jamais susciter la vraie foi. Alors arrêtez-vous qui souffrait des démangeaisons, d'entendre constamment des prophéties, de chercher absolument des visions, eh bien, vous êtes en train de travailler à la destruction de la foi. Car ce qui ne vient pas de Dieu ne peut pas nourrir notre foi, quand bien même cela aurait l'apparence de la vérité. Voyez. Arrêtez, mes amis, je vous en supplie. C'est ce qui fait que malgré le nombre d'églises dans Kinshasa, l'immoralité ne fait que croître comme la mauvaise herbe. Voyez. C'est ce qui fait que malgré tant d'églises, nous n'arrivons pas, mes amis, à avoir un impact sur la société. Regardez le nombre d'églises qui sont instrumentalisées par les hommes politiques. Le nombre de pasteurs qui aujourd'hui sont chosifiés par certaines personnes. Ils les utilisent. Lorsque quelqu'un est rempli de la foi de Dieu, il est plus qu'un baobab. C'est un roc. Vous venez là pour la voir. Ah non, vous repartez. Vous voyez, mes amis, nous devons faire très attention. La priorité, eh bien, c'est d'être sûr que ce que je reçois là vient de la parole de Dieu et que cela est inspiré par le Saint-Esprit. Si tel est le cas, alors l'Esprit de Dieu va nourrir notre foi. Alléluia. Et notre foi grandissant déterminera la manière dont nous allons affronter les adversaires. Autrement, nous serons comme des cymbales sonores, des vases vides, vases d'argile. L'incrédulité nous endort, plonge les gens dans une sorte de torpeur ou de léthargie, et finit peu à peu par les lier. C'est ainsi qu'il y a des gens. Ils sont remplis d'incrédulité, mais ils pensent que c'est ça la foi. Oh, on nous a dit que tel sera gouverneur. Ah, tu comprends? Il y a même des gens qui vont solliciter, ils disent, priez pour moi que je devienne ministre. Voilà. Maître ministre suppose qu'on a rempli certaines conditions au préalable. Oui ou non? Ouais. Vous n'avez rien dans la tête. C'est ça le problème, hein? La langue officielle, vous ne la maîtrisez même pas. Vous allez faire le rapport dans quelle langue alors? Quand vous prenez la parole alors que vous parlez en français, on est obligé de recourir à un interprète. C'est comme, entre parenthèses, le président Mitterrand, en son temps, était de passage dans un pays d'Afrique francophone. Alors le président qui l'avait accueilli se lève, il fait le discours. Quand il termine, Mitterrand se lève. Il remercie son hôte et il ajoute, mais votre langue est comme le français. Alors qu'il s'est exprimé en français, mais enfin je... Ouais. Donc, l'incrédulité, la non-foi, l'absence de foi, la petite foi est un dragon contre lequel, mes amis, nous devons nous battre. Avant de chercher qui sont possédés pour chasser les démons des corps, des vies de ces gens-là, commence d'abord par regarder à toi-même. Tu es peut-être habité par ce dragon qui est l'incrédulité. Combat-le d'abord. Voyez-vous? Voyez? Car ce dragon nous couvre de plus en plus de son ombre. Il nous aveugle. Il obscurcit notre intelligence. Et nous empêche par conséquent d'expérimenter pleinement la vie glorieuse de Jésus en nous. Mes amis, non seulement c'est un dragon, un monstre que nous devons combattre, eh bien, c'est aussi une forteresse que nous devons abattre absolument, comme le muraille de Jéricho. Ça sert à rien, mes amis, de lier les esprits qu'il y a dans Jéricho si vous ne renversez pas la forteresse. Voyez? Donc, notre premier combat, c'est celui-là. Nous devons nous attaquer, nous devons renverser cette forteresse. Alors seulement, nous aurons accès à l'infinie grandeur de la puissance du Dieu de la Bible. Alléluia. Car tant que cette incrédulité est là, tant que le manque de foi ou la petite foi est là, eh bien, il va créer un gouffre abyssal entre cette puissance de Dieu et nous. Nous pourrions connaître toute la Bible par cœur sans que cela puisse avoir un impact dans notre vie. Car le but, ce n'est pas seulement de remplir notre tête, mais il faut bien que cette vérité que nous avons reçue là puisse descendre dans nos cœurs. Alléluia. Mais comment voulez-vous qu'elle descende dans notre cœur, qu'elle arrive à nourrir notre cœur, si elle arrive quelque part, elle rencontre une montagne, eh bien, qui occupe toute la place dans notre cœur? L'incrédulité. Très rapidement, nous en voyons beaucoup de conséquences dans le Nouveau Testament. Une fois le Seigneur était de retour dans sa patrie, c'est-à-dire à Nazareth, en Galilée, il est en plein ministère. Ce ministère, eh bien, est de plus en plus connu un peu partout. Partout il passe, il fait des miracles, il enseigne sa parole, etc. Il se rend dans sa patrie, il va dans la synagogue, il se met à enseigner, et les gens sont frappés par sa sagesse, sont frappés par l'autorité avec laquelle il parle. Eh bien, sa parole est puissante, etc. Et les gens de Nazareth, les gens qu'il avait connus, mes amis, réagissent. Ils sont étonnés. Ils sont presque perplexes. Ils disent, mais lui viennent cette sagesse et cette puissance qui lui permettent d'accomplir des miracles. Mais lui, c'est Jésus-là. Mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Mais oui, son père était charpentier, oui ou non? Oui, mais cette connaissance-là ne suscite pas la foi. Ah. N'est-il pas le fils du charpentier? Ses frères! Ah! J'ai dit bien ses frères. Oui, il a eu des frères. Hein? Pas certains me regardent avec des yeux incrédules. Vous n'avez qu'à lire dans Matthieu 13, 53-58, vous verrez. N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, on les nomme Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? Et la Bible nous dit, et il était pour eux une occasion de chute. Voyez? Et c'est là qu'il dira, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et la Bible est d'ajouter, et Jésus ne fit pas, écoutez bien, ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Eh bien, ici, le terme utilisé, à cause de l'absence de foi. Jésus était là, oui ou non? Il savait qu'il était le fils du charpentier, Joseph, oui ou non? C'était vrai. Ses frères et ses sœurs étaient là, sa maman s'appelait Marie. Mais leurs préjugés, leurs a priori négatifs les ont aveuglés et ont fini, mes amis, par susciter une incrédulité en eux qui les a empêchés d'expérimenter la puissance de Dieu. Et Marc, par rapport à ce texte, ajoute ceci, que Jésus ne fit là que quelques miracles, il guérit quelques malades et il partit. Et Nazareth se retrouvait privé de la gloire de Jésus à cause des démons. Ah, à cause de Satan, à cause de l'un, ce dragon que nous devons combattre. Vous voyez? Dans Matthieu 17, vous connaissez l'histoire de ce monsieur qui est venu se jeter aux pieds du Seigneur et qui crie, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon fils. Mon fils est malade, il est lunatique. Et donc quand ça le prend, il se jette dans le feu, tantôt dans l'eau. Et Seigneur, je n'en peux plus. Il était possédé évidemment. Donc je n'en peux plus. Je l'ai amené à tes disciples. Mais ils n'ont pas pu le guérir. Mais les disciples ont invoqué le nom de Jésus, oui ou non? Au nom de Jésus que nous servons. Au nom de Jésus que Pierre, hein Pierre, oui, ok. Démon, part! Rien. Ils se sont épuisés. jusqu'à ce que le Seigneur arrive, et le Seigneur va se tourner vers ses disciples. Il va leur dire ceci, race incrédule. Ah, ils avaient le nom de Jésus dans la bouche. Hein. Mes amis, certes, dans cette histoire, le Seigneur a dit, voilà, avant d'y aller, il dit, race incrédule. Jésus va guérir cet enfant en chassant le démon. Quand le démon sort, l'enfant est guéri, alors les disciples se tournent vers le Seigneur. Ils disent, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Comment se fait-il? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? C'est là que le Seigneur leur dira, il leur répondra, c'est à cause de votre petite foi. Et il ajoutera, ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Mes amis, cela ne veut pas dire, il suffit simplement de jeûner. Il suffit simplement de prier. Attention, on peut prier sans qu'il y ait la foi derrière la prière. On peut jeûner sans qu'il y ait la foi derrière le jeûne. C'est donc la foi qui est la base de tout, mes amis. S'il n'y a pas de foi, ça ne sert à rien. Nous pouvons chanter, nous pouvons prier, aller à des nuits de prière, être satisfaits en nous-mêmes, ressentir quelque chose, mais sans que cela puisse avoir un impact dans notre vie et nous amener à faire preuve, à manifester la gloire de Jésus. L'incrédulité, donc, très rapidement, est un frein à l'œuvre de Dieu dans nos vies et au travers de nos vies. Nous devrions alors nous préoccuper de l'état de notre cœur, en nous préoccupant de la nature des enseignements que nous recevons. Et ne pas dire, ah oui, mais moi je vais là-bas, là on danse bien. Oui, ce n'est pas la danse qui suscite la foi. Voyez, ce n'est pas la musique, quand bien même elle contiendrait le nom de Jésus, du commencement jusqu'à la fin, qui peut susciter la foi, mes amis. Il faut que nous le comprenions. Ce n'est pas des fausses prophéties où quelqu'un vient te dire, Dieu m'a dit, j'ai rêvé, j'ai vu un aigle blanc qui t'a pris et puis qui t'a amené. Donc après j'ai demandé le discernement, tant que j'ai prié, puis j'ai prié en langue, et j'ai prié, bon c'était 2h du matin, et puis j'ai prié, et j'ai prié, et puis bon, à 4h du matin, le Seigneur m'a dit, l'aigle blanc sur le fauteuil de Kinshasa, dont tu seras gouverneur. Et tu pars, je vais être gouverneur. Oui, Dieu peut parler, mes amis, je suis tout à fait d'accord. Mais nous sommes dans une démocratie. Tu n'as pas de parti. Tu ne vas pas atterrir comme ça, Dieu a dit à quelqu'un. Si ça vient de Dieu, ça finira par se réaliser. Mais si simplement parce que quelqu'un veut avoir un peu d'argent pour son voyage sur le Cameroun, eh bien tu vas saisir ça, tu vas nourrir ça. Une telle prophétie ou vision va mais éroder votre foi. Ça va la rendre impotente. C'est comme quand nous prenons de la nourriture toxique. Qu'est-ce qui arrive? Nous tombons malades, oui ou non? Oui, le corps ne peut pas supporter certaines molécules. Le corps réagit à certaines bactéries, oui ou non? À certains toxiques, le corps réagit. C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas vous injecter le poison de comment? D'une vipère ou d'un cobra, et vous attendre à ce que votre cholestérol disparaisse, que votre problème de tension disparaisse, et que vous marchez... Non. Le venin d'une vipère, d'un cobra, dans le corps d'un homme, au bout de quelques temps, le paralyse et le conduit à... C'est exactement la même chose. Maintenant, vous pouvez admirer ce cobra avec son... Oui, il est beau à voir, hein? Surtout le cobra royal. C'est beau à voir au loin. Voyez? Vous pouvez faire tout un poème, faire de la poésie sur le cobra. Oh, mon gentil cobra. Oh là là. Vous l'encensez, mais lui n'entend rien. Vous vous approchez, vous pique. Malgré toute l'image que vous aviez de lui, eh bien, vous finirez par mourir. Vous voyez, mes amis, il en est de même de toutes ces fausses prophéties, de toutes ces visions, de tous ces rêves. On veut donner un sens à chaque rêve. Quelquefois, les gens viennent me partager leurs rêves, c'est bien.
Mais c'est vous qui avez rêvé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au fait, c'est ça.
Demandez au Seigneur de vous expliquer.
Voyez.
Bon, de temps à autre, il peut me donner l'onction de Joseph, le fils de Jacob, de discerner, d'expliquer les rêves, les visions, etc. Mais pas toujours. Voyez. Donc, pour Dieu, ce que nous sommes vaut plus que tout. Et parler, mes amis, de ce qui se passe en nous, c'est parler de l'être que nous sommes. Et pour Dieu, l'être est primordial. L'être, le fait d'être, vaut plus que l'agir, plus que le faire. D'où la priorité pour chacun de nous. Laquelle? Eh bien, notre être. Et quand nous parlons de notre être, eh bien, nous parlons de ce qui est au cœur de tout. Car c'est dans la mesure où nous sommes transformés en nous, par l'Esprit de Dieu, que nous marcherons de victoire en victoire, que nous ferons face à différentes épreuves. Et c'est le Saint-Esprit, nous l'avons lu, nous tous qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, nous sommes métamorphosés, transfigurés en la même image de gloire par l'Esprit, alléluia. Alors comment rendre, avant de terminer, cette transformation possible? Je vais parler de l'obstacle à cette transformation. Eh bien, il n'y a pas de secret. C'est ici qu'intervient l'élément essentiel, l'élément indispensable, l'élément vital à toute expérience avec Dieu, à savoir la foi. Voilà la priorité de tout. Nous sommes devant Dieu, ce qu'est notre foi. C'est notre foi qui va déterminer notre grandeur, et non pas la somme de connaissances que nous avons de la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible entièrement, c'est bien, je vous encourage, mais on peut lire ça simplement parce qu'on nous le demande de la lire tout le temps, sans rien comprendre, simplement pour calmer sa conscience, n'est-ce pas? Voyez? Donc, la foi, voilà ce qui est important. Quand Paul est arrivé à Corinthe, il a annoncé le message de la croix. L'Église a commencé, alléluia. Et plus tard, il y a eu des problèmes. Et qu'est-ce qu'il leur dit dans Corinthiens au chapitre 2? Il dit, mais je suis venu vers vous dans un état de crainte, et non pas avec une supériorité de langage. Et il ajoute, ma parole et ma prédication, eh bien, n'ont pas reposé sur les discours persuasifs, sur mon éloquence, mes amis, de la sophia, de la sagesse humaine, mais elle reposait sur quoi? Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et il ajoute, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu, alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit, mes amis, qui suscite la foi en nous. Il y a donc un lien, plus tard il dira, eh bien, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais plutôt le Saint-Esprit qui nous aide à connaître les choses que le Seigneur nous donne par sa grâce. Le Saint-Esprit, ô celui qui est au cœur de tout, alléluia. Et parler du Saint-Esprit en nous, c'est parler de la foi, de cette capacité de pouvoir interagir avec lui, alléluia. C'est ainsi qu'au Galates, voilà, au Galates, et je terminerai par là, au Galates, Paul leur a dit ceci, eux aussi ils ont commencé par l'Esprit, et puis à un certain moment, les gens sont passés avec toutes sortes d'enseignements comme aujourd'hui, qui mettaient plus d'accent sur les œuvres de la loi, notamment sur les trois piliers du judaïsme, à savoir l'aumône, la prière et le jeûne. Or, Paul leur dit, chapitre 3 des Galates, « Ô Galates stupides !» Il était incisif, très caustique. « Ô Galates stupides ou insensés, qui a dépeint à vos yeux Jésus-Christ ?» Le Saint-Esprit avait décrit Jésus de manière vivante. Finalement, des théologiens, des judaïsants sont passés en leur disant « Oui, ça, mais, etc. » Et il ajoute ceci. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant le message de la foi. Les œuvres de la loi, l'aumône, hein, donnez. Ce n'est pas parce que vous donnez que le Saint-Esprit suscitera la foi. Pour autant que ce que vous faites soit conforme à l'obéissance de la parole de Dieu. Car on peut donner pour être vu. Oui ou non? Pour que tout le monde sache qu'on a une orphelinat, qu'on souffre de bontéose, etc. Donc, bon, ça n'existe pas au dictionnaire. Et il continue. Dieu qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? C'est la foi et la foi seule. Et là, nous voyons le lien qu'il y a entre le Saint-Esprit et la foi. Si nous voulons, mes amis, connaître le triomphe dans notre vie, nous devrions tout faire pour que le Saint-Esprit travaille en nous. Et pour que cela soit possible, eh bien, il faut qu'il y ait la foi en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que l'apôtre Paul, plutôt Jean, déclara plus tard, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde. » Deux points, c'est notre foi. Ce qui est né de Dieu finit par triompher vis-à-vis de Satan, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de n'importe quel adversaire. Or, pour qu'il y ait naissance de la part de Dieu, il faut que le Saint-Esprit soit là. Alléluia. Donc, une fois de plus, nous voyons le lien entre le Saint-Esprit et la foi, mes amis. C'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, parlant de Jésus, il encourage ses lecteurs à se tourner, à tourner leur regard et à les poser sur Jésus-Christ, et il ajoute, Jésus, l'initiateur et l'accomplisseur de la foi. Alléluia. Celui qui génère, qui suscite la foi par son Saint-Esprit, et en même temps, c'est celui qui l'accomplit, c'est-à-dire qui l'amène à la perfection. La foi est dynamique. Si elle ne croit pas, elle fait quoi? Elle décroît. Hein? Si elle ne grandit pas, elle fait quoi? Elle devient petit à petit, petite, oui ou non. Donc la foi est appelée à grandir. Et dans cet espace de croissance de la foi, eh bien, nous avons l'alpha et l'oméga. Et l'alpha, c'est le Seigneur de la foi. L'oméga, c'est encore lui. Alléluia. Et entre les deux, c'est encore lui. D'où la Bible dira, or, sans la foi, il est impossible de plaire à... Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est... Ah, pas existant. Dieu est, littéralement. Et ensuite, il ajoute, et il devient le rémunérateur. Celui qui pourvoit nos besoins. Celui qui nous guérit quand nous sommes malades. Celui qui nous ouvre les portes quand nous en avons besoin. Celui qui nous donne le travail. Qui nous donne une épouse, un mari. Celui qui nous donne le succès. Alléluia. Mais entre le Dieu qui est et le Dieu qui devient, il y a un élément. Cet élément, c'est la foi que le Saint-Esprit suscite. Le Dieu qui est finit par devenir le Dieu qui nous guérit, qui nous assiste. Mais pour cela, il faut que cet élément soit là au milieu. Et cette foi-là, c'est celle que le Saint-Esprit engendre. Alors, mon frère et ma sœur, travaille ton cœur. Abandonne les péchés. N'attriste pas le Saint-Esprit. Éloigne de toi tout ce qui est de ténèbres, la jalousie, la méchanceté, tout ce qui est négatif. Quand le Saint-Esprit est attristé, ben, comment voulez-vous qu'il suscite la foi en toi? Arrête de regarder des histoires pornographiques. Moi, je ne savais pas, enfin, c'est peut-être naïf. En recevant les gens, quelques jeunes, il y en a une qui m'a dit, « Pasteur, j'étais dedans. » Ah bon? Mais Dieu m'a libéré. Je dis, « Mais vous faites comment ?» Elle dit, « Non, avec nos téléphones là, même avec 500 francs. » C'est terrible, hein? Alors, vous ne pouvez pas nourrir vos pensées avec ces images obscènes, scabreuses, mes amis. Vous ne pouvez nous nourrir vos pensées avec toutes ces choses mauvaises et en même temps vous attendre à ce que le Saint-Esprit suscite la foi. Non, vous l'attristez. Et quand lui est attristé, il n'y a rien qui se passe. Vous allez vous contenter d'une petite foi. oligopistia. Et à force d'être oligopistia, le oligo part et le A vient. Et là, ça devient l'incrédulité. Et c'est fini. Vous restez religieux. Vous devenez religieux. Le nom de Jésus dans la bouche. Mais il n'y a rien qui se passe. Vous prêchez Jésus ceci, on le voit. Mais entre-temps, la diaconesse est votre troisième bureau. Et pourtant, vous prêchez. Hein. Vous voyez, ça ne veut rien dire tout ça. C'est l'art. Et l'art. Acclamons le Seigneur. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous voulons remercier le Seigneur et que chacun puisse regarder à lui-même. Peut-être qu'il y a en toi ce dragon qui est l'incrédulité, cette absence de foi, ce dragon terrible qui empoisonne tes pensées, ce dragon terrible qui t'empêche, qui empêche à l'Esprit de Dieu de susciter la foi en toi. Alors demande pardon à Dieu et résous-toi à te battre contre cette forteresse qu'est l'incrédulité, contre ces dragons, ces monstres qui font un travail de sape, de destruction, d'érosion dans ta vie. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Aide-nous, ô Dieu, à travailler notre relation avec ton Esprit. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, car c'est toi qui suscites la foi en nous. C'est toi qui l'amène aussi à la perfection dans le nom de Jésus. Mais tant que nos cœurs sont des lieux où se côtoient toutes sortes de pensées impures, des pensées immorales, des pensées, Seigneur, ô Dieu, mauvaises, de méchanceté, d'orgueil, d'arrogance, il nous sera difficile, ô Esprit de Dieu, que tu suscites cette foi dont nous avons besoin pour aller de victoire en victoire, de triomphe en triomphe. Pose ta main sur nos pensées. Libère tous ceux qui sont esclaves de certaines choses, qui se mettent aujourd'hui à travailler en collaboration avec toi, Esprit de Dieu, pour que tu les aides à ôter ces mauvaises herbes. Alors seulement, tu pourras déposer cette semence de la parole qui finira par germer et par produire une foi vivante, une foi qui va grandir et nous permettre alors d'expérimenter de grandes choses. Merci pour tout, Maître.